Bonjour Père André Cab.
Bonjour.
Père André Cab, vous êtes l'exorciste diocésain et aujourd'hui on vient vous rencontrer pour en savoir un peu plus sur votre mission. Peut-être que pour commencer, on peut rappeler quel est le sens de l'exorcisme. Préciser un peu de quoi on parle au juste quand on parle d'exorcisme.
Bon, on se rend compte que si Jésus a traversé les chemins des hommes, il s'est heurté très vite aux puissances du mal. Et les premiers gestes, miracles qu'il accomplit, Capharnaüm, au bord du lac de Galilée, c'est bien de s'attaquer au mal sous la forme de la maladie, mais au mal sous la forme de cette présence obscure qui fait du mal au cœur des hommes. Et qui est le démon qu'on appelle Béelzéboul, c'est une force qui est personnelle, mais qui, dont toute l'activité personnelle consiste à démolir ce que le Seigneur construit, démolir la santé, démolir l'équilibre humain, démolir barrer la route au chemin de la vie. Et cela, Jésus s'y est opposé, il est venu pour ça. Il est venu. Donc l'exorcisme, dont dans une session que nous avons faite à Lyon, j'ai appris que le mot en fait n'est jamais appliqué à cela dans la Bible. Ça signifie adjuration, c'est-à-dire je t'adjure de partir. Et l'exorcisme consiste à permettre à Jésus de faire son chemin dans nos vies. C'est vraiment un acte de foi, c'est pas un acte magique de l'extérieur. Bon, moi, pour essayer de le comprendre, je regarde ceux qui m'ont précédé ou accompagné de plus ou moins loin. Dernièrement, j'ai été revoir le père Guy Lepoutre, qui était exorciste à Pau et qui se trouve à Paray-le-Monial maintenant. Bon, c'est une espèce de force tranquille, moi, qui m'impressionne beaucoup, et qui ne se laisse pas impressionner par le mal, mais qui lui oppose la bienveillance, la bonté du cœur de Dieu. Ou bien sûr, celui qui m'a ici immédiatement précédé, le père Andrea, qui était aussi vraiment pour moi une figure de bonté, une figure d'écoute et de compassion. Alors, l'exorcisme, c'est permettre à la bonté de Dieu d'accomplir son œuvre dans le cœur des hommes. Et il veut, comme pour tout, il veut ne pas passer directement, il peut le faire bien évidemment, dans le cœur de quelqu'un, mais il demande que nous nous aidions ainsi sur ce chemin les uns par les autres, et cela fait partie du ministère des apôtres, donc de l'évêque, qui le délègue à un prêtre. Mais évidemment, ce prêtre n'est pas seul. D'autres prêtres peuvent travailler avec lui, mais aussi des baptisés. Nous avons, par le baptême, cette mission.
Alors, depuis quelques semaines que vous êtes nommé par Mgr Brouvet comme exorciste diocésain, vous avez déjà reçu pas mal de personnes. On entend bien ce rôle d'écoute que vous avez. Comment est-ce que vous discernez si la personne qui vient vous voir a besoin réellement d'une prière d'exorcisme ou peut-être de prière, tout simplement ?
Je crois que l'essentiel est d'abord de permettre la rencontre de Jésus avec la personne, de la personne avec Jésus. Et trop souvent, malheureusement, on se rend compte qu'on subit le mal, mais comme une espèce de force qui nous écrase, et on ne fait pas jouer cette ressource qui est celle de notre baptême, d'avoir entendu une bonne foi, une phrase qui est permanente dans notre vie, « Je te baptise, je te plonge dans ma mort et dans ma résurrection ». Dans toutes ces forces de mort et de malheur que tu subis, elles peuvent devenir tremplin pour une vie nouvelle. Donc le discernement, le premier discernement, c'est celui-là. Arriver à discerner dans la personne ce chemin de délivrance qui doit venir d'elle, de sa propre ouverture au don de Dieu. Sinon, je dis souvent de manière un peu vulgaire, mais enfin, c'est l'eau sur les plumes du canard. Ça ne pénètre pas. On peut faire tous les rites qu'on voudra. Il faut pouvoir l'accueillir. Si vous communiez à l'hostie sans croire qu'il y a le corps du Christ, il ne vous fait rien. Il ne peut pas travailler contre vous.
Donc en fait, c'est une question de foi et de liberté. On choisit si on veut se tourner vers Dieu ou rentrer dans cet engrenage de la peur. C'est une question de liberté ?
Oui, bien sûr, il faut éclairer la liberté, libérer la liberté finalement. Mais trop souvent, finalement, l'homme se conduit comme un esclave, quoi, hein. Surtout si, ce qui arrive malheureusement, il n'a jamais connu véritablement l'expérience d'être aimé, d'être voulu pour lui-même, d'être regardé comme Marie regardait Bernadette. Bien, et comme elle était aussi regardée, elle avait cette grâce hein, d'être ainsi aimée dans sa propre famille naturelle. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, n'ont de souvenir que d'être méprisés, négligés, quelquefois même violentés. Et donc, il faut essayer de creuser là-dedans pour qu'il y ait ce désir. Alors, si on peut faire naître ce désir de vie, alors on l'accompagne, bien sûr, par la prière. Ces personnes doivent essayer d'avoir, le père Andrea insistait beaucoup là-dessus, retrouver, il a écrit 10 points, hein, 10 points pour retrouver une vie chrétienne régulière, qui sera le meilleur antidote, le meilleur exorcisme. Hein, un exorcisme serait une activité plaquée s'il n'y avait pas cette correspondance de vie chrétienne dans le cœur des gens. Et les gens, ce que j'ai vu, sont assez étonnés, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas la vie chrétienne régulière. Donc, ils peuvent par contre réciter des quantités de prières, mais comme des formules. Or, le Seigneur n'agit pas à travers des formules, il agit à travers une rencontre. Donc, c'est tout ce travail-là qui me semble prioritaire, hein, sans préjuger, évidemment, de prières spécifiques. Mais alors, on le sait, tout baptisé, même sur soi-même, on peut vraiment exercer ce pouvoir de la prière, demander au Seigneur, comme on sait le faire pour des choses matérielles, on peut lui demander, bien sûr, d'agir en nous par la puissance de son esprit, de nous délivrer. On peut le faire, c'est encore mieux, bien sûr, dans un groupe de prière, on peut le faire avec des prêtres. Il y a des prêtres qui sont plus mandatés ou qui ont plus ce charisme de la prière de délivrance, mais tout baptisé, tout prêtre et doit être solidaire sur ce chemin. Alors après, peut venir le moment, effectivement, où quelqu'un est véritablement lié par une force supérieure et qui le fait fuir, qui fait, disons, qui emprisonne la personne et qui fait que dès qu'elle voit la croix, dès qu'elle parle prière, alors là, elle est anéantie, elle ne peut plus. Alors là, effectivement, il faut rendre possible ce chemin de prière. Mais souvent, c'est par ignorance ou par... ils n'ont jamais compris que c'était d'abord la rencontre avec Jésus qui comptait.
Alors, si on regarde autour de nous, on peut tout mettre facilement sur le dos du diable. On se dit, le mal est partout. Est-ce qu'il faut se méfier, avoir peur en permanence? Parce que c'est rentrer dans une sorte d'engrenage de la peur et puis finalement ne jamais s'en sortir. Comment trouver le juste milieu entre, oui, effectivement, le mal existe, mais je ne tombe pas dans cet engrenage de la méfiance et de la peur permanente qui pourrait m'éloigner de Dieu?
Oui, bah, nous sommes dans un climat social actuellement en France qui nous permet de comprendre ce que ça veut dire. Et je viens de lire la lettre de l'évêque de Beaulieu-Ars à propos du coronavirus, parlant non pas de l'épidémie du virus, mais de l'épidémie de la peur. Hein. Et effectivement, le fameux mot de Jean-Paul II pour l'inauguration de son pontificat ne fait que reprendre l'exhortation permanente de la Bible dont elle dit qu'elle résonne 365 fois ou même 366 pour les années bissextiles. N'ayez pas peur. Hein. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire prendre conscience aux gens, non pas pour la méthode Coué, en disant ben, finalement la maison est en feu, mais tout va bien, Madame la Marquise. Non, simplement d'aller à l'essentiel. Le mal est parasite. Le mal n'existe pas par lui-même. Il existe, on le sait trop. Mais il existe comme un parasite qui a besoin de ronger le bien. Hein. C'est un peu comme la carie pour la dent. Hein. La carie a besoin de la dent. Et donc, souvent, je ne me rends pas compte que j'ai des dents. Et puis, quand j'ai mal aux dents, eh oui, je me rends compte que finalement, j'ai ce don d'avoir des dents. Il faut que je sois malade pour me rendre compte que la santé est une grâce. Hein. Mais par contre, la dent n'a pas besoin de la carie. Le bien n'a pas besoin du mal. Le mal a besoin du bien, donc le bien est fondamental. Et c'est ça, voilà, qu'il s'agit de découvrir. Donc la peur, que voulez-vous, d'abord, on a des sentiments. Moi, j'ai le vertige. Je monte sur un muret et j'ai peur de tomber. Bon, je crois que ça ne se commande pas. Pas dire, n'aie pas peur, on me l'a dit bien souvent. Mais, voulez-vous, c'est comme ça. Et par contre, au profond de mon cœur, je dis, ben, j'ai confiance. Voilà, si jamais, ben oui, parce que j'ai le vertige, je tombe, ben, je tomberai dans les bras de Dieu, voilà, avec une jambe cassée. Et c'est ça qui est fondamental, quoi. C'est cet équilibre intérieur qui est important. Découvrir que le bien est fondamental, que si je suis né d'un viol, si eh bien, je suis quand même voulu de toute éternité par un père qui m'aime. Et ce qui fait que oui, ce chemin est à Lourdes, on le comprend, hein, ce chemin qui est proposé à des personnes blessées, mais peut aussi être du coup une indication faite à des gens qui ont l'impression d'aller très bien, mais qui ne savent pas tendre la main. Ils vont bien, donc ils ne se plaignent pas. C'est l'histoire des malades, des pécheurs, par rapport aux pharisiens dans l'Évangile. Les pharisiens vont bien. Je leur dis, si au moins vous disiez « je ne vois pas », on pourrait vous guérir, mais voilà, vous dites « je vois » et donc vous restez aveugle. Et donc les handicapés, les gens qui ont mal, les gens qui demandent un exorcisme peuvent me rappeler à moi, qui croient aller bien, mais que moi aussi, j'ai des peurs, moi aussi, j'ai des infidélités, moi aussi, j'ai des portes ouvertes au diable, et que je dois humblement, pauvrement, appeler chaque matin la grâce de Dieu.
Alors, je voudrais qu'on dise un mot sur les pratiques. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais l'utilisation, par exemple, du sel béni, d'un cierge, d'eau bénie. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Parce que l'exorcisme, c'est pas de la magie, quoi. Enfin, c'est pas poser des potions magiques. Qu'est-ce qu'on peut penser et qu'est-ce qu'on peut dire de ces pratiques ?
Vous savez, là aussi, il ne faut pas se focaliser sur une seule chose. On aime bien allumer un cierge devant une icône pour prier. Bon, je ne crois pas que ce soit une opération magique. Donc, je crois que nous sommes corporels et nous avons besoin d'images, nous avons besoin de gestes, nous avons besoin de signes. Le tout, c'est que je m'engage à travers ce geste, quoi. C'est ma liberté, c'est mon cœur qui s'ouvre et qui pose ce geste ou qui reçoit ce signe, hein. Donc, le sel béni nous fait penser donc au geste d'Élisée, jetant du sel dans l'eau pour qu'elle, d'amère, elle devienne potable. Et l'eau bénite, bien sûr, nous fait penser à l'eau du baptême. Donc tout cela, ce sont des gestes qu'à Lourdes, on comprend bien, à travers le geste des piscines, à travers le chemin de croix dans la montagne, tout ça, ce sont des gestes physiques, les cierges, bien évidemment. La Sainte Vierge a demandé à Bernadette de laisser son cierge. On est relié à tout cet univers physique, nous ne sommes pas pur esprit. Donc si on le vit comme une sorte d'extension de ma présence corporelle, de ma vie, eh bien, je crois que ça nous aide. Si on se fait remplacer par cela, si on dit, bon, du moment que j'ai fait ça, je suis en règle, je n'ai plus à m'occuper, et moi, je fais ce que je veux à côté, alors on crée un divorce, et ça n'a plus de sens.
Quelle est la meilleure prière? Vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait cette émission, Père André Cab, qu'on peut très bien avoir des tonnes de prières, mais finalement, il vaut mieux peut-être en avoir une qu'on dise bien. Quelle est la prière que l'on peut dire pour se protéger du mal et pour lutter contre le mal?
Bien sûr, la réponse est évidente, hein, c'est celle que Jésus lui-même nous a enseignée, c'est de se couler dans la prière de Jésus, hein. Et lui qui s'adresse à Dieu en l'appelant Abba, Papa, au moment où le diable vient pour lui faire fuir cette mort d'amour qui lui est proposée. C'est là que nous l'entendons dire dans l'Évangile, Abba, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Toute prière doit aboutir à cette remise confiante de l'enfant entre les mains de son père, même, et nous le voyons pour Jésus, du fond de l'abîme de la nuit. Il est descendu dans le péché des hommes, et c'est de là qu'il fait monter cette prière de confiance. Donc, ça, c'est la prière de base que nous devons dire, mais comme un enfant pour son père, non pas comme quelque chose rabâché comme les païens, bien évidemment. Mais, alors, après qu'elle revienne plusieurs fois sur nos lèvres, c'est bien, rabâché, ça ne condamne pas la répétition. La répétition, c'est comme le fait qu'on ne respire pas une fois pour toutes. On continue de faire des mouvements d'inspiration et d'expiration, sinon ça ne marche pas. Ben, le chapelet, c'est un peu ça. Évidemment, notre Père est accompagné. Marie l'apprend, enfin, le fait prier à Bernadette. Le « Je vous salue Marie », c'est une prière divine. Hein. C'est qui dit le premier « le Je vous salue », c'est l'ange Gabriel de la part de Dieu qui vient saluer Marie. Donc ça veut dire que je reconnais que la création est belle, bonne, que dans ce tas de boue, il y a une source pure et immaculée qui jaillit. C'est le cœur de Marie qui n'est qu'une créature, il ne faut pas en faire une demi-déesse. Elle nous rend confiance dans ce monde. Je crois que si, tout simplement, nous disons cette prière qui fleurit, qui couronne de roses hein, la tête de cette petite maman, eh bien, nous retrouvons hein, la beauté d'un monde ouvert au souffle de Dieu. Nous permettons au souffle de Dieu de nous apaiser. Vous voyez, je crois que le chemin de l'exorcisme, c'est d'abord d'accueillir ce baume hein, sur les blessures qui pénètre et qui fait que de l'intérieur même du cœur, il y a ce souffle de Dieu qui nous pénètre et qui nous fait vivre. Donc là, on est sur un beau chemin. Alors après, bien sûr, il y a des prières que même le Père Lepoutre aime beaucoup, la prière que Marie a dictée, semble-t-il, au Père Sestac, le fondateur des Servantes de Marie d'Anglette, Auguste, reine des cieux, souveraine des anges, hein. C'est très beau tout cela, mais au fond de tout cela, c'est en orbite autour de ce noyau central, et simplement il ne faut pas transformer en quantité ce qui est de l'ordre du cœur. Hein. Je voyais un monsieur qui venait me voir autrefois, qui avait la poche intérieure de sa veste pleine chaque fois d'une série de papiers. Je lui dis, il faut vous alléger. Je lui dis. Et alors il le faisait, et puis il revenait, il en trouvait d'autres. Et bon, c'est un mécanisme. Mais en même temps, il avait un cœur d'enfant, donc c'était ça qui était l'essentiel. Simplement, il ne faut pas se paniquer parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas dit les 15 prières que j'avais promis de dire. Quoi. Il faut revenir toujours à ce noyau de l'enfant qui, comme dit Charles Péguy, s'endort en s'en mêlant dans les paroles du Notre Père. Quoi.
Père André Cap, pour finir, peut-être une info pratique. Comment fait-on pour vous joindre et à quel moment peut-on vous joindre quand on a besoin de rencontrer l'exorciste du diocèse de Tarbes et Lourdes?
Alors, j'aurai, comme le Père André, une ligne téléphonique dédiée, mais elle n'existe pas encore. Il faut attendre, je ne sais pas quand cette émission passera, mais enfin, ce sera prévu pour la mi-mars, je pense, voilà. Mais on peut, et le meilleur moyen, d'ailleurs ça permet en écrivant de décrire un petit peu de quoi il s'agit, de prendre son temps, il y a l'adresse électronique qui est exorciste au singulier, @catholique65, catholique au singulier, 65 en chiffres, le tout attaché, .fr.
Voilà, exorciste@catholique65. .fr, c'est l'adresse mail pour vous joindre. Père André Cab, un grand merci à vous pour cet entretien.
Merci.